Chers amis des cellules, bonjour. Joyeuse Pâques, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. En cette octave de Pâques, je vous propose, pour réfléchir et méditer, de revenir sur un extrait de l'Exultet. L'Exultet, c'est ce chant d'annonce de la résurrection qui a lieu à la fin de la première partie de la vigile pascale, à la fin du rite de la lumière, lorsque le cierge pascal a été installé dans l'église encore dans l'obscurité, et que le prêtre ou le diacre à l'ambon chante cette exultète à la gloire du cierge pascal qui représente le Christ ressuscité. Le ressuscité est la lumière que les ténèbres de la mort n'ont pas pu étouffer, et qui partage sa splendeur à tout le peuple des baptisés. Mais lisons l'extrait que nous allons commenter. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux du séjour des morts. À quoi nous servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvés? Ô merveilleuse condescendance de ta tendresse envers nous! Pour racheter l'esclave, tu as livré le Fils. Il fallait le péché d'Adam que la mort du Christ abolit. Ô bienheureuse faute qui nous valut pareil rédempteur! Ô nuit de vrai bonheur, qui seul mérita de connaître le temps et l'heure où le Christ a surgi du séjour des morts. Voici la nuit dont il est écrit, « La nuit resplendira comme le jour, la nuit même est lumière pour ma joie, car le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à la concorde et soumet toute puissance. » Le premier élément que nous pouvons relever est celui de la nuit, car la nuit évoque à la fois les ténèbres, ténèbres de la mort, ténèbres de l'angoisse, là où la vision de l'homme est empêchée, là où du coup les facultés de l'homme étant réduites, il se sent vulnérable. Mais la nuit, c'est aussi la nuit de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y a une œuvre qui s'accomplit, il y a une vie qui se développe. Et les deux images de la nuit se télescopent. La nuit de la mort cède le pas à la nuit de la création nouvelle, car le Christ s'est relevé victorieux du séjour des morts. La deuxième phrase, « À quoi nous servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvés ?» nous rappelle l'extrême fragilité de la condition de créature. Nous ne possédons pas la vie en nous-mêmes, et venir à l'être, c'est pour la créature, si on pense au simple mammifère, la condamnation à mort. Je suis né pour mourir, ma vie n'a qu'un temps limité, ma puissance de vie s'épuise comme le sablier voit s'épuiser les grains. Mais voilà que face à la fragilité de la créature, le salut est ajouté, le salut vient à sa rencontre, le salut d'une vie naturelle qui passe à une vie surnaturelle, qui passe à la vie éternelle. Alors la vie, le fait de naître, n'est plus une condamnation à mort, mais une opportunité de la vie éternelle, un appel à la vie éternelle. Être créature, ce n'est plus être tiré du néant pour y retourner, c'est être tiré du néant pour avoir accès à la vie éternelle. Dieu ne nous a pas fait entreapercevoir la vie pour nous la retirer, il nous a donné la vie pour que nous participions à sa vie. C'est la grande affirmation de Pâques. Et le texte continue en nous montrant comment cela est devenu possible. Ô merveilleuse condescendance de ta tendresse envers nous, pour racheter l'esclave, tu as livré le Fils. Le terme de condescendance est à prendre dans son sens noble et fort. Ce n'est pas la condescendance un peu méprisable de celui qui voit quelqu'un dans la misère et qui lui fait une espèce d'aumône en fait pour qu'il déguerpisse de sa vue. Toi, tu es tellement misérable, prends ça et puis va au loin parce que ta présence gâche mon espace. La condescendance dont il est question ici, c'est le fait d'être saisi aux entrailles maternelles, comme le Christ utilise cette image dans les paraboles pour parler du Père qui voit son Fils et qui est retourné aux entrailles, qui éprouve de la compassion, qui éprouve un amour au point de descendre de là où il aurait pu rester au loin, non? Il descend pour se faire tout proche. Il descend pour nous tirer de la boue, pour nous tirer de la fosse, pour nous tirer de la prison de la mort, pour briser les liens du péché, quand bien même cela implique la mort, quand bien même cela implique la mort du Fils. Dieu a aimé la croix parce qu'elle nous sauvait. Dieu n'a pas aimé la croix par amour de la souffrance, mais Dieu a aimé la croix parce qu'elle devenait le moyen par lequel le salut nous était conféré. Et il nous faut prendre conscience de cette condescendance de Dieu, de cet amour qui va jusqu'à se livrer, de cet amour qui est prêt à s'abaisser pour prendre soin de la vie. Celui qui ne prend pas conscience de cette condescendance de Dieu ressemble à un enfant capricieux qui pense que tout lui est dû. Cet amour de Dieu, cet amour qui s'abaisse, n'est pas motivé par nos mérites, mais par la grandeur de l'amour de Dieu lui-même. C'est Dieu qui est la mesure de cet amour. Si nous n'en prenons pas conscience, nous risquons fort l'ingratitude et nous nous privons de la joie et de l'émerveillement de nous réjouir de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Il m'a aimé jusque-là, jusqu'à se livrer sur la croix. Prenons conscience de l'inouï. Il n'y a aucune autre religion qui dit « Dieu a donné sa vie pour moi, Dieu a donné sa vie pour nous ». Il n'y en a aucune. Beaucoup de religions parlent d'aimer Dieu parce qu'il est parfait, donc il est aimable, mais seuls les chrétiens peuvent affirmer « Dieu nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous ». Nous avons un Dieu qui nous aime. Si nous nous demandons parfois avec angoisse « Est-ce que nous sommes aimables ?», la réponse de Dieu est exceptionnelle. Tu n'es pas seulement aimable, tu es aimé, j'ai donné ma vie pour toi. Suivent après deux phrases qui sont étonnantes. Il fallait le péché d'Adam que la mort du Christ abolit. Comment cela, il fallait le péché d'Adam? Est-ce que nous étions condamnés à pécher? Est-ce que c'était une fatalité? Non, nous n'étions pas condamnés à pécher, ce n'était pas une fatalité, mais cet événement qui a eu lieu va mettre en lumière plus profondément la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, va pousser à la révélation plus éclatante de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Comme parfois on augmente le contraste pour mieux voir les formes d'un objet, eh bien le contraste entre le péché et l'amour de Dieu va mettre plus en évidence la réalité de l'amour de Dieu. Ça ne change pas l'amour de Dieu pour nous, la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, mais ça va le mettre plus en évidence. Et voici la deuxième phrase extrêmement étonnante. Ô bienheureuse faute qui nous valut pareil rédempteur. Comment comprendre ce ô bienheureuse faute? Parce que c'est à se taper la tête contre les murs, hein, si on le prend avec sa force réelle. Bienheureuse faute, bienheureux péché originel, mais qui du coup a introduit la mort dans le monde, a introduit la souffrance, a introduit du coup cette blessure de la création, les maladies, les tremblements de terre, mais aussi les guerres, les exterminations, les génocides. Et on dirait bienheureuse faute qui a entraîné tout cela, mais qu'est-ce que c'est? C'est le cri d'un sadique qui dit cela. Cette phrase ne prend son sens que depuis la lumière de la résurrection. Cette phrase n'est audible que dans la lumière du ciel, que dans la lumière du paradis. C'est une phrase qui s'entend depuis le salut conféré, depuis que l'on contemple les plaies glorieuses du Christ. Cela correspond à l'effarement de saint Paul qui dit « Là où le péché a abondé, la charité a surabondé ». Comprenons que ce n'est pas un appel à faire abonder le mal pour pouvoir soigner d'autant plus après. C'est un regard porté sur l'histoire et qui se rend compte que justement Dieu a su apporter au-dessus de la blessure de l'histoire un salut plus éclatant encore, au point de nous réconcilier avec notre histoire, au point d'apporter à notre histoire telle qu'elle a été une fécondité inédite, un rayonnement inédit, inouï, inespéré. Très important cela de penser que nous serons réconciliés avec notre histoire, telle qu'elle est, cette histoire qui parfois nous semble dénuée de sens, dénuée de fécondité, qui nous semble parfois un gâchis. Nous pousserons ce cri, bienheureuse faute qui nous valut pareil rédempteur, parce que nous relirons toute notre histoire dans cette lumière de la résurrection. Le texte continue alors sur une autre note, « Aux nuits de vrai bonheur, qui seul mérita de connaître le temps et l'heure où le Christ a surgi du séjour des morts. » La pointe de cette phrase alors est l'événement historique. Il y a un moment dans l'histoire où le salut a été donné. Ce n'est pas un symbole, c'est un événement historique. Dieu est intervenu dans notre histoire, Dieu intervient dans mon histoire. La révélation, ce n'est pas simplement une morale qu'on entend, intemporelle, c'est une implication de Dieu qui vient rencontrer, qui vient s'ancrer à l'intérieur même de l'histoire des hommes, à l'intérieur même de notre histoire, de mon histoire personnelle. La révélation judéo-chrétienne est une rencontre, est une alliance historique. Ce n'est pas une suite d'idées, une suite de concepts, c'est une rencontre personnelle. Parce que l'amour est une rencontre personnelle. Parce que l'amour est une histoire qui se construit. Notre extrait se finit ensuite sur une idée de restauration. Voici la nuit dont il est écrit « La nuit resplendira comme le jour, la nuit même est lumière pour ma joie, car le pouvoir sanctifiant de cette nuit » chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à la concorde et soumet toute puissance. » Il y a en creux, dans ces phrases-là, l'affirmation de l'œuvre de l'Esprit-Saint. Vous voyez, quand on parle de pouvoir sanctifiant de cette nuit, il faut saisir, du coup, si c'est sanctifiant, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint qui opère une restauration et une élévation de l'histoire, une restauration et une élévation de la création. L'arrivée du huitième jour, c'est l'arrivée de la création nouvelle, et c'est donc cette œuvre toute particulière de l'Esprit-Saint qui s'accomplit, qui lave du péché, qui rend la vie et qui donne la vie éternelle au corps qui était mort, qui permet la communion, quand on parle de disposer à la concorde, qui dissipe la haine, justement, et qui permet de vivre la charité. Il est l'esprit d'amour. Il rend l'allégresse aux affligés parce qu'il est le consolateur, il est le paraclet. Il soumet toute puissance, il n'y a aucune force démoniaque qui puisse s'opposer à l'œuvre de l'Esprit-Saint. Rappelez-vous ce que disait Jésus, si c'est par le doigt de Dieu, c'est-à-dire si c'est par l'Esprit-Saint que je chasse les démons, alors le règne de Dieu est arrivé. Cette évocation de l'Esprit-Saint manifeste que Jésus est bien le Messie, souvenons-nous. Le Messie, c'est l'envoyé de Dieu, celui qui est rempli de l'Esprit-Saint et aussi celui qui donne l'Esprit-Saint au monde. Si l'Esprit-Saint n'est pas répandu sur le monde, alors Jésus ne serait pas le Messie. En définitive, nous voyons qu'à travers ce court extrait de l'Exultète, nous avons une méditation joyeuse de l'œuvre du salut du Seigneur et de la manifestation de son amour pour les hommes. Puissions-nous, tout particulièrement cette octave de Pâques, reprendre ce texte de l'Exultète et le méditer abondamment, le méditer avec joie, et nous laisser imprégner par la lumière qu'il dégage. Je vous souhaite de bons échanges.